Amis auditeurs, bienvenue, Marie avec vous pour cette nouvelle émission Témoignage chrétien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des EMI, expérience de mort imminente. Notre témoin s'appelle Cyril, 41 ans. Il a vécu donc une expérience de mort imminente à l'âge de 11 ans et voit son existence bouleversée lorsqu'il sent la vie quitter son corps. Il bascule dans un ailleurs, puis en revient chamboulé. Depuis, sa vie n'a plus jamais été pareille. Et il témoigne de cette expérience pour Alana. Il nous dit « Je n'ai jamais parlé de cette expérience à personne, ni à ma compagne, ni à mes proches. J'ai trop peur qu'ils me prennent pour un illuminé ou qu'ils gâchent, entre guillemets, un peu ce souvenir que je trouve avec beaucoup d'années de recul merveilleux. Je n'ai d'ailleurs jamais lu d'autres témoignages dans la presse, il y en a pas mal en ce moment, c'est moins tabou qu'avant, ni aucun livre sur le sujet. Je sais qu'il y a les ouvrages du docteur Charbonnier qui sont assez reconnus, mais je ne veux pas, j'ai peur que ça parasite mon souvenir, ou pire, que cela le modifie, que je m'imprègne de celui des autres, sans doute proche du mien. C'était il y a si longtemps, maintenant. J'avais 11 ans, nous étions à la piscine avec ma classe. À un moment, je me trouvais au bord du bassin et un de mes camarades a trouvé drôle l'idée de me pousser dans le grand bain. Je ne savais pas encore bien nager à l'époque. Je me souviens être tombée et de m'être laissée couler. Je me souviens de la température de l'eau aussi qui m'a saisie quand je suis tombée. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais peur. Je me suis mis à hyperventiler et donc à boire les premières tasses d'eau. Puis je me rappelle avoir eu cette sensation horrible de tomber encore plus profondément dans le bassin. Puis d'un coup, un voile noir et sur le côté, une sorte de tunnel. Un tunnel bleu nuage. Ce tunnel, il m'attire car il y a comme une sorte d'énergie au bout. Je n'ai plus conscience de mon corps, ni de la piscine, ni de la température de l'eau. D'un coup, j'ai une sensation de chaleur. Vous savez, comme lorsque le soleil caresse votre peau et que la température est ni trop chaude ni trop brûlante, juste parfaite. C'est un peu ça si j'essaye de comparer. Mais c'est presque inégalable et indescriptible. Cette chaleur sur la peau, alors que je n'ai plus conscience de mon corps, c'est comme une énergie. Voilà, je ne suis plus qu'énergie. Je ne suis plus rien d'autre. Je ressens quelque chose de tellement puissant, la sensation d'un amour inconditionnel qui m'envahit. Une sorte de béatitude, comme une extase totale. Et ça ne me quitte plus. C'est si intense, ce sentiment d'unité, de sérénité, de paix, c'est tellement fort. Et là, je les ai vus, des images, de mes parents, de mes amis, de mes proches. Dans mon esprit, ces images défilent dans le tunnel. Et là, je m'excuse auprès d'eux, de les laisser tomber, de partir, de ne pas leur avoir dit au revoir. Je le fais donc maintenant. J'ai la sensation que tout passe très vite. On ne se parle pas, car ici, il n'y a pas besoin de paroles. Tout n'est que sensation. On se comprend. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a plus de corps, de mots. Mais on communique entre nous. C'est tellement beau et paisible de se dire au revoir. Être triste ici, dans ce tunnel, ça n'a pas de sens. Ça n'existe même pas. J'ai toujours cette énergie en moi et l'amour inconditionnel qui m'entoure, m'englobe de tout mon être. Tout est beau, bon, pur et positif. Je quitte l'image de mes proches après cet adieu et j'avance toujours plus loin dans le tunnel. Je suis happée par l'énergie qui s'en dégage. Puis, je vois le visage de mes proches qui sont décédés et que je reconnais, même si je ne les connais pas. C'est bizarre de dire ça, mais dans mon souvenir, je ne trouve pas ça étrange. Tout me paraît absolument normal. Je n'ai pas peur. Pas une seconde. Je vois mes arrière-grands-parents que j'ai vus uniquement en photo, des gens qui sont morts avant ma naissance, des ancêtres en somme. Tous viennent à ma rencontre. Ça défile devant moi. Ils me parlent, toujours sans parole. Et là, ils me font comprendre que ce n'est pas le moment pour moi de partir. Qu'est-ce que je ressens ici, dans ce tunnel? J'ai le droit de le ressentir, de m'en imprégner, mais que je ne peux pas rester, que ce n'est pas encore ma place, que j'ai encore beaucoup de choses à vivre et à ressentir avant de revivre ce moment. Et là, d'un coup, bim, je suis sur le bord de la piscine avec mes camarades et mon professeur qui m'entoure. Je ressens mon corps, la sensation du carrelage contre ma peau. C'est un peu, beaucoup, brutal. La lumière, le son de la piscine, j'ai froid. Mais tout de suite, je ne dis rien de ce que j'ai vécu. pour moi, c'est une évidence que je ne dois le dire à personne, même pas à mes parents. Pourtant, je suis jeune. À 11 ans, je ne suis encore qu'un enfant. Mais je le ressens ainsi. Ça me marque comme expérience. Pourtant, j'ai la certitude que je ne dois rien dire. C'est un secret que j'ai toujours eu en moi depuis. Mais ce n'est pas quelque chose de lourd. Il fait partie de moi. C'est une expérience qui m'a suivie toute ma vie. Mais je ne me suis jamais reposée de questions sur ce que j'ai vécu. Je sais que ce n'était pas un rêve ou autre chose. Je sais que c'est réel et incroyable. Je ne cherche pas à ressentir cette sensation d'amour inconditionnel à nouveau. Ce n'est pas possible ici. Il n'y a pas de conséquences vraiment dans ma vie. Ou si, une, je m'en rends compte en vous racontant, sans doute hyper importante ou pas, je ne sais pas. La seule conséquence, c'est que je n'ai pas peur de la mort et que surtout la mort n'est pas pour moi synonyme de tristesse ou autre, comme pour 99% des gens. En fait, je suis hyper confiant sur la mort. Oui, c'est bizarre de dire ça, et donc l'après que j'ai entreaperçu finalement. Ça ne veut pas dire que je prends des risques immodérés ou que je suis un casse-cou, pas du tout. Mais je n'ai pas peur, ni de tristesse autour de ça, car souvent, on en a peur car c'est l'inconnu derrière. La fameuse question à 1 million de dollars, et après, il y a quoi ? Penser des expériences de mort imminente, donc EMI. Les EMI nous rappellent que notre perception quotidienne est déjà très en deçà de la réalité et leurs éléments caractéristiques sont très cohérents avec la foi chrétienne. Les EMI sont des expériences aujourd'hui bien connues, attestées dans toutes les cultures et sur tous les continents, et sur lesquelles on a maintenant de nombreuses études et plusieurs milliers de témoignages convergents. Raymond Moody est le premier chercheur à s'être vraiment spécialisé sur les EMI. À l'origine, c'est le psychologue et épistémologue français Victor-Émile Heger, professeur à la Sorbonne, qui emploie pour la première fois l'expression « expérience de mort imminente » en 1896 dans « Le mois des mourants ». Docteur en philosophie et médecin américain, Raymond Moody a repris l'expression sous le nom de NDE, Near Death Experience, et il a étudié sérieusement le phénomène pendant une vingtaine d'années en analysant quantité de témoignages de personnes attestant avoir vécu une expérience de mort imminente. Il a écrit 3 ouvrages consacrés à cette question. Et au terme de son étude pionnière, Raymond Moody en arrive à expliquer le phénomène d'une manière assez spiritualiste, ne voyant pas comment expliquer les choses de manière plus rationnelle. Le phénomène est aujourd'hui bien connu et analysé. Depuis une quarantaine d'années, le développement et l'amélioration extraordinaire des techniques de réanimation ont permis de multiplier brutalement le nombre des EMI et donc de mieux approfondir le phénomène. Des témoignages de plus en plus nombreux ont peu à peu permis à tous les expérienceurs de sortir du silence dans lequel ils s'enfermaient dans le passé, de peur qu'on les prenne pour des fous. Le phénomène est aujourd'hui connu et suffisamment important pour que l'on puisse l'étudier de manière statistique et scientifique à partir de données qui viennent de toutes les parties du monde et de toutes les cultures. Le 17 juin 2006, une rencontre réunit les plus grands experts internationaux à Martigues afin de faire pour la première fois le bilan d'années de recherche et de réflexion autour de ce phénomène hors du commun qui a maintenant suscité de nombreuses études. Les témoignages reprennent en général une partie des éléments caractéristiques suivants. Sortie du corps, rencontre d'âmes de défunts et reconnaissance de visages connus. Passage dans un tunnel sombre au bout duquel rencontre très attirante avec une lumière. Décision de retour difficile, tant le passage ressenti comme définitif et sans retour semble attirant. Une EMI type se compose de 3 phases successives bien distinctes. Suite à un accident, un arrêt cardiaque ou à d'autres facteurs, une personne, homme ou femme, adulte ou enfant, est en état de mort cérébrale. Soudain, elle a l'impression de sortir hors de son corps, c'est la première phase, et de flotter au-dessus de son propre corps, au plafond de la pièce. Elle peut voir, observer des choses qui se passent aux alentours, sous tous les angles. À ce stade, elle semble jouir de capacités inconnues jusqu'alors. Vision à 360 degrés, franchissement des murs et autres cloisons, légèreté corporelle, communication instantanée, d'esprit à esprit, etc. Ensuite, le sujet est attiré dans un long tunnel, c'est la deuxième phase, débouchant dans une lumière ineffable, magnifique. On a pu comparer cette beauté lumineuse à la porte du paradis. Le sujet peut alors rencontrer par systématique parents ou amis disparus, un être de lumière, des anges ou même Jésus ou Marie. Les paysages qui l'entourent sont indescriptibles de beauté. La personne entend parfois une musique improbable. Enfin, le patient réintègre son corps, c'est la troisième phase. Retrouve les douleurs qui étaient siennes, se sent à nouveau limité dans son enveloppe de chair. L'aspect le plus remarquable, la similitude des étapes rapportées par les témoins qui les ont vécues et racontées, quelle que soit leur race, leur âge, leur langue ou leur pays. Moody a pu, le premier, définir une liste de points communs qui se retrouvent dans la plupart des témoignages. La grande difficulté de trouver des mots capables d'expliquer l'expérience. Le patient qui s'entend déclarer mort. Le sentiment de calme et de paix. L'audition de bruit. Le tunnel sombre, la décorporation, la rencontre avec d'autres personnes. La vision d'une lumière aveuglante, bienveillante, pleine d'amour. La vision de sa propre existence. L'arrivée à un stade où l'on sent que l'on ne peut pas aller plus loin. La décision du retour. Le changement de la manière de vivre après l'expérience et la perte de la peur de la mort. Plusieurs récits d'expériences émis ne font allusion qu'à une ou deux des caractéristiques communes, mais celles-ci provoquent la plupart du temps une impression si puissante et si forte qu'elles se traduisent par des changements radicaux dans la vie des gens. L'ensemble de l'expérience est le plus souvent caractérisé par une sensation de bien-être, ceci malgré l'impression ou la certitude d'être en train de mourir. Tous les témoignages s'accordent sur la parfaite lucidité pendant l'expérience, que tous décrivent comme aussi réelle, sinon plus, que la vie de tous les jours. Elle est en particulier bien différenciée d'un rêve ou d'une hallucination. Les témoins évoquent parfois la rencontre d'êtres chers disparus, ou encore d'un être rayonnant de bonté, de sagesse et d'amour, qui parfois les accompagne dans une revue de leur existence, en orientant leur attention sur des points importants. Certains disent avoir perçu l'ensemble de leur vie d'un seul coup d'œil. D'autres ont revécu certains moments clés, percevant simultanément les émotions de tous les participants à la scène, ainsi que les conséquences de leurs actes. Puis le témoin comprend qu'il faut retourner d'où il vient, avec, souvent associé, la notion d'une tâche à terminer. Il existe aussi des EMI négatives, effrayantes, mais elles sont rares. Elles se traduisent par des visions de flammes ou d'eau sombre avec des aspects angoissants, souffrance, cris, hurlements, néant, vide, enfer. Contrairement aux EMI positives, peu de cas ont été recensés. Mais dans la plupart de ces cas, on constate aussi de profonds changements de vie. Sont attestées aussi quelques expériences de mort partagée. Raymond Moody les appelle, dans son dernier ouvrage, « témoins de la vie après la vie » parce qu'elles ressemblent aux EMI avec décorporation, vision, otoscopique, lumière mystique, sentiment de bien-être, d'amour et de paix, à un détail près. Elles sont vécues par des personnes en bonne santé, physique et psychologique, et elles se manifestent au moment du décès d'un proche. Ces personnes se tiennent alors près du corps et se sentent transportées ailleurs, comme sorties de leur propre corps, immergées dans une intense lumière. Elles participent au départ du proche, après avoir généralement visualisé à ses côtés le film de sa vie. Ces phénomènes étonnants ont beaucoup d'intérêt, car il rappelle que notre perception du quotidien est très en deçà de la réalité. Après, la science qui a montré que nous n'avons accès qu'à une infime partie du cosmos et la foi qui enseigne que le paradis terrestre et le paradis céleste nous échappent aussi, les EMI confirment l'existence d'un réel élargi à l'approche de la mort. Les explications scientifiques ne suffisent pas à expliquer ces phénomènes. Il y a beaucoup de témoignages étonnants, portant sur des détails matériels concrets que les expérienceurs ne pouvaient connaître. Les études citent, par exemple, celui de Maria, qui a vécu son EMI lors d'un arrêt cardiaque. Pendant celle-ci, elle a pu voir de l'extérieur une chaussure de tennis usée à l'emplacement du petit orteil et dont le lacet était coincé sous le talon, posée sur le rebord du deuxième étage de l'extrémité nord du bâtiment où elle était située. Après avoir écouté Maria, un médecin incrédule partit à la recherche de la mystérieuse chaussure et après avoir examiné chaque fenêtre de la zone décrite, il finit par trouver l'objet exactement comme l'avait décrit la femme. Certaines EMI ont révélé des secrets de famille, tels que l'existence d'une fratrie ignorée jusqu'alors, ou bien de nombreux détails matériels ou dialogues que la personne qui vivait l'EMI ne pouvait pas entendre ou voir du lieu où elle se trouvait. De tels faits sont assez inexplicables et la science peut difficilement y apporter une explication qui soit psychologique, matérielle ou rationnelle. Certaines caractéristiques des EMI témoignent d'une perception autre, d'une autre réalité. La perception d'un environnement, au sens large du terme, sans le secours des organes des sens habituels. Nombre de témoignages ont pu être corroborés dans lesquels le témoin ne pouvait pas physiquement avoir perçu ce qu'il rapporte. Il y a des communications, toujours au sens large, unies ou bilatérales, sans le secours des organes normalement dédiés à cet usage et dans une dimension de la réalité qui n'est pas facile à décrire. Dans le même ordre d'idées, il y a souvent apport d'informations difficiles à expliquer. Par exemple, ces nombreux témoins, étudiés en particulier par le cardiologue Michael Sabom en 1983, qui ont assisté à leur propre réanimation et pouvaient décrire les gestes de l'équipe de réanimation. Par exemple, le fonctionnement détaillé d'un défibrillateur, etc. Les témoins font aussi l'état de particularités perceptives que l'on rencontre couramment, comme par exemple la perception globale, non visuelle, l'environnement observé sur 360 degrés, la perception simultanée de la scène depuis plusieurs points de vue, l'éclairage ne respectant pas les lois de l'optique, la communication non verbale, la perception de sons sans le secours de l'appareil auditif, la perception vérifiée des pensées de participants à la scène, etc. Il parle aussi de la perturbation des notions d'espace et de temps qui semblent soit inadéquates, soit totalement différentes, en tout état de cause difficile à décrire. Plusieurs évoquent aussi l'accès rapporté par de nombreux témoins à une sorte de savoir universel, un réservoir illimité de connaissances. L'esprit semble parfois pouvoir rester actif sans le secours du corps. Pamela Reynolds, une Américaine de 35 ans, a vécu une expérience de EMI en 1991 pendant son opération d'un anévrisme géant. Le neurochirurgien Robert Spetzler a utilisé la technique de l'arrêt hypothermique pour laquelle il est expert. Cette technique délicate consiste à baisser la température du corps à 15,5 degrés Celsius et mettre en place une circulation sanguine extracorporelle. Pamela a ainsi été maintenue 45 minutes avec un encéphalogramme plat. On peut donc en déduire que son système cérébral était dépourvu de toute activité. Pourtant, le EMI de Pamela s'est déroulé, selon ses dires, durant cette période d'arrêt cardiaque hypothermique. Elle aurait subi une décorporation au moment de l'arrêt hypothermique et elle a pu raconter l'opération dans ses moindres détails en rapportant, à l'étonnement du personnel médical, les conversations précises des chirurgiens. Elle a aussi été capable de décrire les instruments utilisés lors de son opération, toute chose que les médecins n'arrivent toujours pas à comprendre. L'expérience de Pamela s'est traduite par la vision du tunnel et de la lumière extraordinaire caractéristique. Ce témoignage a été très médiatisé, mais beaucoup d'autres rapportent les mêmes éléments, et notamment la vision ou l'écoute des choses que les expérienceurs, comme on les appelle, ne pouvaient pas matériellement appréhender là où ils se trouvaient. Ces témoignages remettent en cause profondément la dépendance de la conscience par rapport au corps. Les explications scientifiques imaginées ne sont pas compatibles avec ces témoignages concrets qui les invalidaient. Il n'est pas possible d'expliquer de façon entièrement rationnelle le phénomène des EMI, qui ne peut assurément pas être réduit à de simples interactions cérébrales. À travers les EMI, on touche une autre réalité qui dépasse la réalité connue. La science ne peut que buter sur de telles choses, parce que ses méthodes et ses moyens sont liés aux lois physiques d'ici-bas. Elles ne sont pas pertinentes ni opérantes au-delà. Erwin Schrödinger écrivait déjà à ce sujet en 1954 « Je suis stupéfait de constater à quel point l'image scientifique du monde réel autour de moi est déficiente. Elle nous fournit quantité d'informations factuelles, ordonne toutes nos expériences de manière magnifiquement cohérente, mais elle est horriblement silencieuse quant à toute cette diversité de choses qui nous tiennent effectivement à cœur et qui nous importent réellement. Elle ne peut rien nous dire à propos du rouge et du bleu, de la mer et du sucré, de la douleur physique et du plaisir physique. Elle ne connaît rien du beau et du laid, du bon ou du mauvais, de Dieu et de l'éternité. La science prétend parfois répondre à des questions dans ces domaines, mais les réponses sont très souvent si ridicules que nous ne sommes pas enclins à les prendre au sérieux. Les EMI qui se situent au seuil de la mort, et non après, ne disent pas tout de notre destin au-delà de la vie présente. Mais l'ensemble de leurs caractéristiques recoupe parfaitement la doctrine chrétienne sur la mort, qui enseigne la séparation de l'âme et du corps. L'immortalité de l'âme, la communion des saints, et un jugement particulier dans l'amour et la vérité. Les EMI parlent d'une limite au-delà de laquelle tout retour est compris comme impossible. Tous les témoignages que nous avons ne peuvent évidemment évoquer que ce qui se situe en deçà de cette limite, comprise comme décisive et irrévocable, et donc au seuil de la mort, et non après. Ces éléments relativisent évidemment la possibilité de parler de la mort d'une manière complète. Elles n'évoquent qu'une partie de notre destin au-delà de la vie présente. Il est cependant frappant de constater la surprenante convergence entre le phénomène des EMI et ce qu'enseigne la doctrine chrétienne sur la mort et ses suites. Selon l'enseignement de la foi chrétienne, le passage de la vie terrestre à la vie éternelle par l'étape de la mort suppose aussi certains éléments qui peuvent être très facilement mis en correspondance avec les éléments caractéristiques des EMI. Séparation à la mort de l'âme spirituelle, immortelle et du corps mortel. Existence d'un autre monde, flottement d'un espace nouveau. Existence d'une vie après la mort, multiple être dans l'espace nouveau. Pas de réincarnation, tunnel et passage ressenti comme irréversible. Possibilité de l'enfer, NDE négative. Possibilité de purgatoire, tunnel noir progressivement plus lumineux. Possibilité de paradis, lumière attirante bienveillante. Jugement de la vie, vision de la vie entière. Communion des saints, être proche, reconnu. Accompagnement par les anges, être spirituel. Rencontre avec le Christ, lumière du monde. Être de lumière au bout du tunnel. Jugement particulier dans l'amour, amour au bout du tunnel. Résurrection dans le Christ, vie des êtres proches. Vie éternelle très attirante, attirance forte pour la réalité lumineuse. Les EMI reprennent de manière précise et détaillée l'ensemble des thèmes traditionnels qui sont présents dans la doctrine chrétienne, au centre de laquelle il est affirmé que Dieu est amour. Le Christ est, selon l'Évangile, la vie, la lumière qui illumine tout homme au milieu des ténèbres et qui conduit l'âme impérissable à la vie éternelle. On constate de très bons fruits spirituels à ces expériences et la majorité des personnes ayant vécu des NDE se convertit en général dans les semaines ou les mois qui suivent et n'ont plus peur de la mort. Les personnes qui ont vécu des EMI en sont en général profondément marquées également. Cette expérience est décrite par tous comme inoubliable, forte, marquante et elle induit un changement de vision du monde et de compréhension de la nature et de l'univers. L'étude montre qu'elles voient généralement leurs valeurs totalement remises en question. Certaines rompent avec leurs anciennes relations, et parfois même avec leur famille, avec qui elles ne sont plus forcément en phase. En 1988, le cardiologue Pim van Lommel, en association avec les psychologues Ruud van Wise et Vincent Meijers, a effectué une étude rétrospective aux Pays-Bas. Cette étude est le fruit de 4 ans de recherche. Cette étude rétrospective post-EMI a été suivie d'une autre étude longitudinale en suivant les expérienceurs dans la suite de leur vie. Les patients ayant subi une EMI ont été suivis pendant 2 à 8 ans après leur arrêt cardiaque. Il en est ressorti que la plupart d'entre eux ont changé d'attitude par rapport à leur entourage, la mort, la religion, et ont finalement davantage confiance en la vie et en eux-mêmes. L'expérience conduit à des changements de vie. Les expériences de mort imminente ont presque toujours un impact profond sur l'individu qui se traduit par un changement de vie. Cet impact est reconnu par les psychologues qui ont étudié les cas d'EMI. Les attitudes matérialistes et la recherche de réussite sociale et financière se transforment souvent en un besoin d'aider les autres. De plus, dans la plupart des cas, la personne devient intimement persuadée de l'existence d'une réalité spirituelle, indépendamment parfois de toute pratique religieuse. La majorité des personnes ayant vécu une EMI se convertit dans les semaines ou mois suivants. Leur attrait pour les choses matérielles et leur réussite et les réussites de ce monde diminuent, tandis que croît leur goût pour la spiritualité, l'invisible et l'éternel. Tous sont convaincus d'une forme de vie après la mort. Bien qu'aucun lien n'ait été trouvé entre l'orientation religieuse et la probabilité d'avoir une EMI, de nombreuses autres études rapportent aussi un accroissement du sentiment religieux après l'EMI et d'un plus grand intérêt pour la spiritualité, la prière, etc. Après cet aperçu du ciel ou leur vue du Seigneur, la plupart sont ensuite absolument convaincus d'une forme de vie après la mort. Il faut cependant bien se garder d'assimiler ces EMI avec l'expérience authentique de la foi qui n'a nullement besoin d'expériences extraordinaires pour être forte, grande et vraie. Il faut bien distinguer entre la foi et les EMI. Assimiler sans discernement la foi et ses expériences risquerait de troubler les esprits et les cœurs plutôt que de les éclairer. D'abord, les EMI ne sont pas du tout réservés aux chrétiens. Des gens de toute religion et de toute culture peuvent vivre une telle expérience. Or, le cœur et le but de la vie chrétienne, c'est le Christ et son message, ce qui suppose de les connaître. D'autre part, la qualité de la vie chrétienne ne se mesure pas au nombre ou à l'intensité des expériences extraordinaires. On peut être un grand croyant sans jamais avoir vu de ses yeux de chair le Christ ou la Vierge ou les anges. On peut devenir un saint sans connaître de ravissement. La référence absolue pour les chrétiens, le Christ et son évangile, n'est pas affaire d'extase, de décorporation ou de lumière inconnue. Seul un acte de foi, donc de confiance envers le ressuscité, donne l'assurance d'être sur le bon chemin vers le face-à-face éternel. La foi chrétienne ne passe pas ordinairement par des expériences mystiques. L'évangile donne priorité aux croyants et non aux prodiges ou aux extatiques. Croire au Christ consiste non à désirer le voir matériellement, mais à accorder une confiance totale, absolue, en ces paroles transmises par les apôtres et conservées par l'Église. EMI et extase disent le cœur humain à sa surface comme l'écume de la mer, mais seule la parole du Christ, lumière venue d'en haut, en découvre les profondeurs. Amis auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt sur nos ondes dans une prochaine émission.